Le coin lecture. Présenté par Emmanuel Dufour.
Chères auditrices, chers auditeurs, bonjour et bienvenue dans ce 17e numéro du Coin Lecture, l'émission de Radio Libres en Périgord dédiée à la lecture de textes d'autrices et d'auteurs locaux et contemporains. Aujourd'hui, nous allons découvrir une nouvelle et quatre poèmes de Kim Nguyen. Kim Nguyen est un auteur de poèmes et de nouvelles naviguant entre le policier, l'absurde et la fiction. Sous des dehors volontiers décalés, ses textes témoignent souvent de son engagement dans les combats de notre temps. Né en 1977 à Saint-Céré, dans le Lot, Kim Nguyen vit aujourd'hui à Périgueux, où il est très impliqué dans la vie associative. C'est en particulier lui qui est à l'initiative du premier salon de la santé mentale qui s'est tenu les 17 et 18 mai 2025 à Coulounier-Chamiers. Kim Nguyen a participé au recueil de nouvelles collectif Brume aux éditions CFSL Inc. autour du thème de l'environnement. Aujourd'hui, je vais vous lire la nouvelle Silence ainsi que quatre poèmes issus de son recueil Poèmes d'avant, vus aujourd'hui, où il nous propose des réinterprétations de poèmes classiques. Chaque poème réinterprété sera précédé du poème original. Bonne écoute. Silence. Les yeux rivés sur l'horizon, Volodymyr montait la garde. Il avait 54 ans, portait un uniforme, un fusil, ainsi qu'une paire de jumelles. Il n'était pas seul. Trois autres volontaires ukrainiens l'accompagnaient et se reposaient. Là, c'était la fin du tour de Volodymyr. Dans 1h30, il irait les réveiller. Il prendrait les ordres avant de partir ou de rester sur place. Leur mission était de ralentir les Russes. Putain de Russes. Ils avaient des troupes pas loin. Peut-être qu'ils les repéreraient demain et entreraient en contact. Ou plutôt leurs drones viendraient compter aux troupes de Poutine l'amitié ukrainienne à l'aide de 3 ou 4 bombes. Boum, boum, boum. Explosion. Chaleur humaine. La tactique qu'on leur avait enseignée était simple. On repère l'ennemi. On envoie le drone en l'air. Il attaque rapidement. Puis dès que l'engin est revenu, le groupe se replie. Une version moderne de la guérilla. Volodymyr ne savait pas piloter cette machine. Lui, il n'était là que pour protéger le pilote. Les drones, avant la guerre, c'était quelque chose d'inconnu pour lui. Il était fermier dans une exploitation familiale, non loin de Kiev, près de la ligne de front exactement. Il y cultivait de la moutarde blanche qu'il revendait à un grossiste qui l'envoyait en Europe. Il avait aussi quelques bêtes, 3 vaches, des poules, 4 cochons et un âne. Tout ça, c'était uniquement pour lui, comme les légumes de son potager. Il était marié à Paulina, une fille qui avait 15 ans de moins que lui. Elle était jolie, Paulina, avec ses cheveux roux et ses taches de rousseur. Il l'avait rencontrée au marché. Elle avait 17 ans, alors matinée d'un sacré petit culot. Ils avaient discuté. Il l'avait invitée à boire un café. Elle l'avait embrassé sur la joue à la fin. Il était revenu la semaine suivante, puis celle d'après. Il y avait eu d'autres cafés, jusqu'au jour où ils étaient allés danser avec ce baiser glissant de la joue aux lèvres. Ils s'étaient fréquentés. Les parents de Paulina ne voyaient pas d'un bon œil ce vieux qui courtisait leur fille, qui en plus était un paysan, quand elle venait de la ville. En dépit de toutes ces critiques, il s'était marié. La vie à la ferme avait plu à la citadine. Elle lui avait même donné 2 filles. Une vie bercée de bonheur. Jusqu'à l'invasion. Maudite guerre. Maudit Poutine. Tout était encore silencieux. Rien. Hormis la rosée égayée par le chant des oiseaux, ne dérangeait le petit jour naissant. Il scruta l'horizon avec ses jumelles. Pas le moindre mouvement. Il se saisit d'un thermos dans lequel se trouvait le café, s'en servit une tasse. Bientôt, il faudrait en refaire. Il repensa au jour où il était parti. Il revit le corps. Il accompagnait Fédor Falkov. Ils étaient 5 fermiers dont les femmes étaient parties se réfugier chez de la famille en Pologne ou ailleurs. Eux, ils étaient restés pour leur pays, pour répondre à l'appel du président Zelensky. Ils avaient décidé de partir tous ensemble pour aller à Kiev se faire former aux arts de la guerre. Il était d'abord parti chercher Fédor. Ensemble, ils devaient passer chez Alexander, un fermier des environs. Sauf qu'Alexander manquait à l'appel. Tout était silencieux. Les jours d'avant, un organisme de résistance était venu récupérer les bêtes pour qu'elles aident à l'effort de guerre en nourrissant les rares civils qu'il restait, ainsi que les combattants. Pas un bruit. Ils étaient entrés chez Alexander, l'avaient appelé, en vain. Pas une trace, à part sa valise restée dans un coin, faite comme s'il allait partir. Il l'avait cherché ailleurs sur la propriété, jusqu'à le retrouver, non loin de l'étable, abattu d'une balle dans la tête. Il avait déjà vu des cadavres, mais jamais celui d'une personne de son entourage. Il détourna la tête. Il le connaissait depuis qu'il était gamin, Alexander. Ils avaient quoi, 10 ans d'écart ? Ils n'avaient jamais joué ensemble, mais ils se fréquentaient. Un village, c'était toujours petit. On ne manquait pas de se croiser. Putain.
Il a été exécuté,
lâcha Fédor.
Ils lui ont attaché les mains dans le dos avant de l'abattre froidement.
Les Russes ?
Naturellement.
Volodymyr aurait voulu rester pour garder le corps, mais son ami l'avait convaincu de le laisser. Les autres les attendaient. Quand ils furent tous ensemble, ils s'arrêtèrent près de l'exploitation d'un fermier qui restait pour lui indiquer la mort d'Alexander, là où ils avaient découvert sa dépouille. Il fallait qu'il avertisse la famille, histoire qu'on puisse l'enterrer. Ensuite, ils partirent à Kiev. En ces temps troubles, il n'y avait plus de police ou de structure y ressemblant dans le coin. La guerre accaparait tout. Ils arrivèrent au bureau de recrutement, s'y inscrivirent tout en rapportant le décès de leur collègue. Peut-être que l'armée aiderait le fermier. Il existait possiblement des services pour aider aux funérailles des victimes de l'envahisseur. Ils l'ignoraient. Toutefois, ils avaient fait leur devoir. Maintenant, une formation les attendait. Le maniement des armes, les tactiques de combat. Bref, la guerre. Il n'y avait plus de café. Il avait vidé le thermos. Il n'aurait pas pu s'en occuper car enfer signifiait quitter des yeux la route au cours d'un instant durant lequel les ennemis auraient pu passer.
Maudit russe.
En même temps, cela ne le dérangeait pas trop car il ne savait pas bien faire le café. Pas aussi bien que Stepan. Il n'y avait toujours rien. 25 minutes. Il sautilla un peu sur place avant de partir faire sa dernière ronde. Il dormait dans une grange à une centaine de mètres de la route. Un bon poste d'observation. Il fit le tour de la construction, regardant ici et là. Il s'arrêta pour uriner. Il ne faisait pas si froid en ce mois de mai. C'était même un temps agréable pour la saison. Le réchauffement climatique avait des avantages au fond, songea-t-il en souriant. Il revint vers la grange, plus léger. Il repensait à Paulina, au jour où elle et ses filles étaient parties. Son épouse était une femme forte. Elle ne pleurait pas, contrairement à ses filles. Quand on a 12 et 16 ans, même dans les périodes les plus rebelles, on comprend que lorsqu'on doit quitter son pays, cet endroit où on a vécu depuis son plus jeune âge, il y a de fortes chances qu'on ne revoie plus ses proches qui restent derrière pour combattre. Il fallait que quelqu'un reste derrière pour les protéger. rôle qui incombait à leur père. Il y avait du monde à la gare, comme à chaque fois depuis le début des hostilités. Il se souvint de leurs mains qui s'agitaient derrière la vitre, des lèvres de la plus jeune collées contre le verre, comme pour l'embrasser. Cela ressemblait à un voyage en train habituel, sauf que personne ne savait s'ils allaient se revoir. Il revint vers la grange. Il y avait du mouvement. Stepan s'était levé et, constatant l'absence de café, s'était mis en tête d'en refaire. Une initiative louable.
« Tu sembles pensif, Volodymyr. »«
Je pense à ma famille, au jour où elle est partie. »«
Elle te manque ?»«
Ouais. Mais je sais qu'elles sont en sécurité chez un cousin en Pologne. »«
Tu as des photos ?»
Elles m'en ont envoyé plein.
Tu me le montreras quand on sera de retour.
On ne partait pas en mission avec son portable, du moins avec l'appareil allumé. Durant l'entraînement militaire, on leur avait détaillé les dangers de la géolocalisation. Il se remit en position pour guetter la route. Il n'y avait plus de silence, mais un petit bruit métallique résultant de la préparation du café. Le même que ce jour-là. Il était à la ferme, 3 semaines avant l'attaque russe. Y avait eu un son identique à celui-ci au niveau de son motoculteur, tchac, tchac, suivi de plus rien au niveau de la machine. Il s'était penché, avait essayé de cerner le problème sans arriver toutefois à l'identifier. Comme il était presque 3h30, il était revenu à la maison. Paulina n'était pas là. Les filles à l'école. Il s'était lavé les mains, jusqu'à ce que, s'essuyant, il ne voie oublié sur un meuble le portable de sa femme. Machinalement, il s'était approché pour vérifier. Ouais, c'était bien lui. Beaucoup de personnes se seraient tenues éloignées du téléphone, mais pas lui. Il voulait en savoir plus. Le code fut facile à trouver. Paulina n'ayant pas beaucoup d'imagination, il s'avéra être la date d'anniversaire de sa mère ou de son père. Bingo, il trouva du premier coup. Puis vint le choc. Les photos. Paulina avec Alexander. Ensemble, au soleil, s'embrassant. Merde. Il connaissait Alexander depuis qu'il était tout petit. Les textos. Si on pouvait tenter de trouver une autre interprétation aux images, le texte, lui, ne laissait aucun doute. C'était des déclarations d'amour, ponctuées aussi d'envie de le fuir, lui, le père de ses deux filles. Elle ne pouvait plus le supporter. Il la dégoûtait. Elle n'avait jamais été heureuse avec lui. Elle. Ils avaient bien eu des hauts et des bas, ce qui constituait l'apanage de tout couple, non? Il posa le portable. Que lui restait-il? Ses filles? Sauf si elle. Sauf si elle voulait partir. Elle les emporterait alors avec elle? Il perdrait tout. Cependant, il existait une autre solution. Comme les tuer. L'amant d'abord. S'il disparaissait, il était possible qu'elle restât, même si elle le détestait. Cela se passait bien ainsi dans les films policiers qu'on voyait à la télé. Alors, que lui restait-il d'autre comme option ? Rien, à part agir en premier. Il était parti à Kiev acheter des serre-câbles et un pistolet. Avec la crainte d'invasion, on ne contrôlait pas trop. Il était normal que des citoyens s'armassent pour se défendre. Personne ne contrôlait dorénavant les permis ou autorisations. Il avait échafaudé son plan. En premier lieu,
Alexander, ce sale petit. Il agirait sitôt que les Russes attaqueraient, ou peu de temps après. Il réunirait les gens du coin pour monter au front ensemble. Personne ne refuserait. Tout s'était déroulé plus ou moins comme prévu, jusqu'à ce que, cerise sur le gâteau, des Russes ne soient aperçus quelques jours auparavant dans le secteur. Une troupe perdue qui cherchait de la nourriture ou de l'essence, à n'en pas douter. Stepan lui amena du café. « Tiens, cela te fera du bien !» Le liquide chaud dégela son gosier. Il revoyait Alexander au moment où il était venu le réveiller. « Il y a un problème. Il faut qu'on parte plus tôt. Habille-toi, ils arrivent !» Il avait obéi. L'ennemi était censé ne pas être loin. Les instructions se bornaient à les retarder le plus possible. « On va bloquer la route plus bas avec ton tracteur. » C'est sur le chemin qu'il avait abattu Alexander, à bout portant. Un bruit rapide troublant la nuit. Il avait ensuite traîné le cadavre près d'un mur, lui avait attaché les mains dans le dos à l'aide d'un serre-câble. Tout laissait penser à une exécution. Il n'y aurait pas d'enquête. Pas en ces temps troubles de guerre. Qui irait enquêter sur un meurtre ne semblant laisser planer aucun doute en pleine campagne? Personne. Il songeait à Paulina. Que lui ferait-il à son retour? Il ne savait pas. Avec Alexander en moins, elle pouvait changer à son retour, reprendre sa place à ses côtés, l'aimer à nouveau, ou chercher quelqu'un d'autre à mettre dans son lit. La route au loin demeurait déserte. « Alors, ce café, toujours aussi bon ?»« Ouais, toujours. » »« Peut-être qu'il faudrait qu'il la tue. » »« Mais ça, cela se ferait après la guerre. » »« Maudite guerre. » »« Maudit russe. » Demain dès l'aube, de Victor Hugo. Demain, dès l'aube, à l'heure où blanchit la campagne, je partirai. Vois-tu, je sais que tu m'attends. J'irai par la forêt, j'irai par la montagne. Je ne puis demeurer loin de toi plus longtemps. Je marcherai, les yeux fixés sur mes pensées. Sans rien voir au dehors, sans entendre aucun bruit. Seul, inconnu, le dos courbé, les mains croisées. Triste. Et le jour pour moi sera comme la nuit. Je ne regarderai ni l'or du soir qui tombe, ni les voiles au loin descendant vers Harfleur. Et quand j'arriverai, je mettrai sur ta tombe un bouquet de houx verts et de bruyères en fleurs. Demain dès l'aube, de Kim Nguyen. Demain dès l'aube, à l'heure où blanchissent nos cheveux, je m'en irai, vois-tu. Je sais que tu m'attends. J'irai dans ton EHPAD, j'irai dans ta chambre. Je ne puis demeurer loin de toi plus longtemps. Là, assise face à toi, je te parlerai des choses d'hier, de celles d'aujourd'hui, de ce dont tu ne peux plus te remémorer et qui ont, à jamais, disparu de ta vie. Tu souriras, et ensemble nous irons marcher quelques mètres avant que tu ne sois fatigué. Puis, je te laisserai, tout en me dirigeant vers ceux qui te gardent et qu'on nomme soignants, demain, dès l'aube, à l'heure où finissent nos vies, je m'en irai, vois-tu. Je sais que tu m'oublies. Et tant de larmes s'écouleront encore, car la seule fin de ce poème
et la mort. Poème à mon frère blanc de Léopold Sédar Senghor. Cher frère blanc, quand je suis né, j'étais noir. Quand j'ai grandi, j'étais noir. Quand je suis au soleil, je suis noir. Quand je suis malade, je suis noir. Quand je mourrai, je serai noir. Tandis que toi, homme blanc, quand tu es né, tu étais rose. Quand tu as grandi, tu étais blanc. Quand tu vas au soleil, tu es rouge. Quand tu as froid, tu es bleu. Quand tu as peur, tu es vert. Quand tu es malade, tu es jaune. Quand tu mourras, tu seras gris. Alors, de nous deux, qui est l'homme de couleur? Poème à mon frère normal de Kim Nguyen. Quand tu es né, tu étais normal. Quand tu as grandi, tu étais normal. Quand tu as travaillé, tu étais normal. Quand tu as aimé, tu étais normal. Quand tu as eu des enfants, tu étais normal. Quand tu vis, tu es normal. Tandis que moi, mon frère normal, quand je suis né, j'étais comme toi. Quand j'ai grandi, j'étais mal. Quand j'étais plus qu'heureux, j'étais excentrique. Quand mon bonheur n'avait pas de limite, j'étais le maître du monde. Quand je m'emportais, je ne comprenais pas. Quand les autres pleuraient, je comprenais. Quand j'étais triste, j'étais seul. Quand j'étais dépressif, je voulais en finir. Quand je suis passé à l'acte, on m'a aidé. Quand on a mis des mots sur ma maladie, j'étais soulagé. Quand on m'a donné des médicaments, j'étais mieux. Quand on m'a accompagné, je me suis reconstruit. Quand j'ai repris ma vie, j'étais bipolaire. Pourtant, de nous deux, qui ne ressemble pas à l'autre? Qui n'a pas deux jambes, deux bras, une tête pour penser? Qui n'est pas aussi normal que toi? Ozymandias de Percy Bysshe Shelley. J'ai rencontré un voyageur de retour d'une terre antique qui m'a dit « Deux jambes de pierre immense et dépourvues de buste se dressent dans le désert. Près d'elles, sur le sable, à moitié enfoui, gît un visage brisé dont le sourcil froncé, la lèvre plissée et le rictus de froide autorité disent que son sculpteur sut lire les passions qui survivent encore dans ces objets sans vie à la main qui les imita et au cœur qui les nourrit. Et, sur le piédestal, apparaissent ces mots. « Mon nom est Ozymandias. » « Roi des rois, voyez mon œuvre, ô puissant et désespéré. » Auprès, rien ne demeure. Autour des ruines de cette colossale épave, infinies et nues, les sables monotones et solitaires s'étendent au loin. Ozymandias de Kim Nguyen. J'ai rencontré un voyageur d'une terre antique qui m'a dit « Deux jambes immenses sans buste se dressent dans le désert. Près d'elles, sur le sable, des bus débarquent.
plusieurs centaines de touristes. Ils viennent, à côté, prendre une photographie, un selfie, qu'ils enverront aussitôt à leurs amis pour témoigner qu'ils se trouvaient bien là, près des restes d'un monarque quasiment oublié. De sa folle ambition censée traverser le temps, ses batailles héroïques se diluent aujourd'hui dans le parcours trop rodé d'un tour opérateur. Sa vie se résume dans les guides et une page wiki. Sur un lieu vite vu où, au pied de ses jambes immenses, s'accumulent mégots, bouteilles et autres vieux papiers. Heureux qui, comme Ulysse, a fait un beau voyage, de Joachim du Bellay. Heureux qui, comme Ulysse, a fait un beau voyage, ou comme Sestui-là qui conquit la toison, et puis est retourné plein d'usage et raison, vivre entre ses parents le reste de son âge. Quand reverrai-je, hélas, de mon petit village fumer la cheminée, et en quelle saison reverrai-je le clos de ma pauvre maison qui m'est une province et beaucoup d'avantages? Plus me plaît le séjour qu'ont bâti mes aïeux que des palais romains le front audacieux. Plus que le marbre dur me plaît l'ardoise fine. Plus mon Loire gaulois que le Tibre latin. Plus mon petit Liré que le mont Palatin, et plus que l'air marin, la douceur angevine. Heureux qui, comme Ulysse, a fait un beau voyage, de Kim Nguyen. Heureux qui, comme Ulysse, a fait un beau voyage, parti de sa maison, avec femme et enfant, rêvant de paradis, d'un salaire décent, dans un de ces pays à l'avenir sans nuages. Heureux qui, comme Ulysse, a fait un beau voyage, sur un bateau chargé, traversa l'océan, puis coula au milieu d'une mer s'emballant pour se retrouver seul, survivant du naufrage. Heureux qui, comme Ulysse, a fait un beau voyage, fut placé dans un camp avec d'autres migrants, au beau milieu du froid d'un hiver sauvage, continua à pleurer la perte de son clan. Heureux qui, comme Ulysse, a fait un beau voyage, renvoyé par avion vers son point de départ, en ayant tout perdu, malade et sans espoir, maudissant tout le temps ce pas si beau voyage. Vous venez d'entendre la nouvelle Silence ainsi que les poèmes Demain dès l'aube, poème à mon frère normal, Ozymandias et Heureux qui, comme Ulysse, a fait un beau voyage, de Kim Nguyen. Ces textes sont pour l'heure inédits. Mais vous pouvez vous procurer en librairie le recueil collectif Brume aux éditions CFSL Inc. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous rappelle que si vous souhaitez me soumettre vos propres textes ou ceux d'autrices ou d'auteurs locaux et contemporains, vous pouvez contacter RLP par mail à l'adresse radiolibresenpérigord@gmail.com ou par téléphone au 05 53 46 80 24, où vous pourrez laisser un message en précisant le nom de l'émission Le Coin Lecture. Merci encore de votre écoute et à la prochaine fois.